En séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Quelles sont les formes qu'adoptent aujourd'hui les pratiques religieuses en Chine ? Et selon les régions et les milieux, comment comprendre la question religieuse, faite à la fois d'interdit et de renouveau ? Telles sont quelques-unes des questions abordées par Vincent Gossard, spécialiste des études taoïstes, chercheur au CNRS depuis 1998, actuellement directeur de recherche, qui a publié plusieurs travaux sur ces questions. Il a donné sa communication devant les académiciens réunis en séance le lundi 4 juin 2012, entrée grâce à Canal Academy dans la salle des séances. Vous entendrez d'abord la présidente pour l'année 2012, Marianne Bastide-Bruguière, qui présente, en le résumant, le parcours de Vincent Gossard.
Je voulais, dans cette série sur les forces qui animent le monde actuel, essayer de vous faire entrer un peu dans l'univers mental et les pratiques de la société chinoise d'aujourd'hui d'une façon différente de ce que vous pouvez voir à la télévision, dans vos journaux favoris ou même dans les revues les plus savantes. Il est connu qu'en Chine, l'exercice de la religion s'organise différemment des formes qui nous sont familières autour d'églises constituées avec des dénominations concurrentes et auxquelles chacun est rattaché ou au contraire auxquelles chacun s'oppose. L'exercice de la religion en Chine répond à des logiques sociales, collectives, individuelles qui sont différentes. On connaît des formes obligatoires, l'appartenance à la communauté du culte familial et à la communauté du culte territorial, mais également des formes volontaires, des communautés de culte qui se forment librement selon les besoins spirituels des individus. J'ai demandé à Vincent Gossard de venir nous parler des pratiques actuelles de la religion chinoise et j'ai pensé qu'il était particulièrement qualifié pour le faire pour trois raisons. La première, c'est qu'il continue et porte à un niveau encore plus élevé une remarquable tradition savante que nous avons en France d'études taoïstes qui nous porte, peut-être ne le savez-vous pas, au premier rang du monde dans ce domaine, bien que le taoïsme ne corresponde pas du tout à l'esprit français. Mais nous sommes très forts grâce à une lignée de savants, Vincent Gossard est le dernier fleuron de cette lignée. Et d'autre part, Vincent Gossard a un art remarquable pour rendre sous forme accessible des éléments de concept, de même d'observation, pour les rendre accessibles non seulement à la communauté savante, mais surtout à des gens qui sont extérieurs à la communauté spécialisée. Et enfin, Vincent Gossard observe sur le terrain, en Chine, il a observé aussi les phénomènes religieux qui intéressent la communauté chinoise en France, et il est attentif à la fois à tout ce qui est concret dans la religion et au texte. Et ce dialogue entre le concret et le texte reçu est un élément extrêmement important pour comprendre les éléments de la religion chinoise et les pratiques religieuses chinoises. Vincent Gossard, à l'origine, est diplômé de HEC, mais nous savons tous que c'est ce qu'il y a de mieux en France. Et en même temps, il a une maîtrise de philosophie, puis il a fait un doctorat de sciences religieuses à l'École pratique des hautes études sur la recréation du taoïsme au XIIe siècle autour d'une nouvelle tradition, d'une nouvelle école, le Chuanzhen, qu'il traduit par la totalité de la transcendance, qu'on connaît aussi sous le nom de voie de la parfaite complétude. Il est entré au CNRS en 1998. 2 ans plus tard, à peine 30 ans, il décrochait une médaille de bronze pour un ouvrage tout à fait remarquable, Dans les temples de la Chine, où il introduit à la fois aux pratiques concrètes de la population et aussi à la religion savante. Il a publié de très nombreux travaux et notamment, il a écrit directement en anglais et a été publié par l'Université de Harvard, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde, sur le clergé taoïste à Pékin du XVIIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle. Et l'an dernier, il a publié un ouvrage à l'Université de Chicago sur la question religieuse en Chine moderne, qui est un ouvrage dont il va donner une version française très prochainement. Il a dirigé toutes sortes de projets et de programmes internationaux importants. Il est directeur adjoint du groupe Société, Religion, Laïcité, qui est un laboratoire associé entre l'École pratique des hautes études et le CNRS. Et je peux vous dire, en nouvelle première, qu'il a été élu ce matin directeur d'études à l'École pratique des hautes études dans la section des sciences religieuses, où il pourra continuer en plein exercice notre tradition taoïste. Et je l'en félicite et nous aurons d'ailleurs bientôt peut-être son dossier à examiner ici, ou alors ce seront nos confrères des inscriptions et belles-lettres. Monsieur Gossart, nous vous avons fait assez attendre, donc je vous donne la parole.
Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les académiciens, c'est un immense honneur et un très grand plaisir pour moi d'être invité aujourd'hui à vous présenter cette communication sur les pratiques religieuses dans le monde chinois contemporain. Je suis extrêmement reconnaissant à Madame la Présidente, d'abord pour son invitation et puis pour cette présentation qui m'a fait durablement rougir. Pourquoi vouloir consacrer une séance entière de votre prestigieuse assemblée à parler de la situation religieuse en Chine contemporaine? Vous avez certainement diverses raisons d'avoir fait ce choix. Je voudrais peut-être en préambule donner quatre éléments qui justifient encore davantage, si besoin est, le choix de ce sujet et son importance au regard des préoccupations qui sont les vôtres. Le premier point est extrêmement rapide, simplement que la religiosité est sans doute une chose assez également répartie dans toute l'humanité, si elle n'est pas également répartie entre les individus. Et les Chinois, quoi qu'on en ait dit, à différentes époques, au travers de la découverte via les écrits des missionnaires jésuites, 17e, 18e siècle, puis dans un ton très différent à partir du 19e siècle, les Chinois ne sont sans doute pas plus religieux ou moins religieux que d'autres peuples, mais ils sont religieux. Et comprendre leur vision du monde, leur pratique religieuse aujourd'hui, aidera sans doute à comprendre ce qu'est la société chinoise et ce qu'elle peut devenir. Le deuxième point est celui des enjeux géopolitiques, dont on entend assez fréquemment parler dans les médias, le plus souvent au travers des problèmes causés par les questions religieuses dans les relations géopolitiques chinoises, au travers de la question tibétaine notamment, la question ouïghour également, ainsi, par ailleurs, que par la question des droits de l'homme qui est souvent soulevée en rapport avec la situation des communautés chrétiennes, et en particulier protestantes, en Chine populaire. Mais il faut aussi voir la question religieuse au travers des opportunités qu'elle propose pour les relations internationales de la République populaire de Chine et des autres pays majorité ou à forte minorité chinoise. Donc il faut également prendre en compte, dans le même regard englobant, Taïwan, Hong Kong, Singapour, les opportunités présentées par une forte population musulmane de langue chinoise qui joue un rôle très important dans le commerce entre le monde chinois et le Moyen-Orient depuis maintenant une trentaine d'années, également au travers de la diplomatie bouddhique que mènent les différents régimes chinois vers l'Asie du Sud-Est et le reste du monde asiatique, et également, ce qui est peut-être un petit peu moins connu, le rôle important que jouent les organisations religieuses dans les relations entre Pékin et Taïwan, où elles ont mené une action très importante de contact informel, à l'époque où les rapports formels n'étaient encore très peu existants, et continuent aujourd'hui à jouer le rôle de facilitateur dans les échanges de plus en plus intenses des deux côtés du détroit. Le troisième point, c'est celui de l'identité culturelle chinoise, du nationalisme. Le nationalisme chinois fascine, inquiète, à juste titre. On peut remarquer que le nationalisme chinois tel qu'il s'est défini et a évolué de façon multiple et complexe depuis plus d'un siècle a très peu pris en compte la dimension religieuse. Au contraire, d'autres pays asiatiques qui très tôt, au travers de la rencontre coloniale et la période des indépendances, a pleinement pris en compte la dimension religieuse dans l'identité nationale. Ce n'a pas été le cas en Chine, mais là aussi la situation est en train de changer et dans les nouvelles formes de nationalisme culturel qu'on voit émerger, dans le monde chinois, la dimension religieuse est de plus en plus présente et affirmée. Et enfin, dernier point, la Chine, qui est de plus en plus présente dans les réseaux internationaux et globaux, dans les circulations d'hommes, d'argent et d'idées, ne garde plus seulement ses problèmes religieux pour elle, elle les exporte. Madame la Présidente faisait allusion à l'instant au fait que nous avons un programme de recherche sur les pratiques religieuses chinoises en France. La question de la population migrante chinoise en France est assez complexe. Les estimations varient fortement, mais les estimations les plus basses sont à 5 ou 600 000 personnes d'origine chinoise en France. Les estimations les plus hautes approchent le million. Et ces populations migrantes qui continuent à arriver par différents moyens, avec de différentes origines, géographiques, sociales, apportent tout avec elles l'histoire des relations conflictuelles entre l'État et la religion en Chine et les diverses pratiques qui sont courantes en Chine et qui deviennent maintenant également courantes en France. Alors, mon exposé, pour essayer de faire sens, pour essayer d'éclairer un petit peu les problèmes que je viens d'exposer, il se fonde essentiellement sur un travail donc, qui a été publié en anglais et qui est sous presse en français à CNRS Éditions et qui s'appelle donc, « La question religieuse en Chine moderne » et dont j'ai envoyé le texte de la conclusion, qui est un texte assez analytique et comparatif, mais qui, je l'espère, pour reprendre certains éléments de l'exposé que je vous fais aujourd'hui, qui est plus factuel, en essayant de le mettre en perspective. Alors, pour décrire la situation contemporaine, on parle très fréquemment de renouveau. Ce n'est pas tout à fait faux dans la mesure où les pratiques religieuses, dans toute la diversité que je vais évoquer maintenant, sont de plus en plus visibles. Simplement, il ne faut pas penser à un renouveau religieux au sens où il y aurait eu un endormissement ou une période non religieuse. En réalité, si on prend la perspective de l'historien, et c'est la mienne, peut-être un sociologue ou un spécialiste de sciences politiques vous parlerait un petit peu différemment, mais d'un point de vue historique, tout le long XXe siècle a été un siècle de transformation continue, de destruction, mais aussi de création, d'invention, de production religieuse dans l'ensemble du monde chinois. Les formes autorisées, les formes interdites ont changé d'une période à l'autre, mais il y a eu en permanence une véritable effervescence religieuse dans le monde chinois. Alors la première grande rupture, et c'est peut-être le point de départ qu'il faut évoquer très rapidement pour comprendre ce siècle de transformation et la situation présente qui en est son aboutissement, ce point de rupture, c'est la fin de l'Empire, donc, qui était celui de la dynastie des Qing, qui prend fin en 1911 pour laisser la place à une république. Et d'un point de vue religieux, cette transition est celle qui permet de passer d'un régime quasiment théocratique, en tout cas d'un régime très fortement religieux. L'Empire a ses sacrifices, ses cultes d'État, ses doctrines. C'est un régime tout à fait religieux, alors que la République est quant à elle laïque. Donc il y a un passage à la laïcité, mais une forme de laïcité qu'on peut qualifier de laïcité autoritaire. Le terme est peut-être un peu osé, certains collègues l'ont utilisé dans d'autres contextes culturels pour parler des régimes de la première moitié du XXe siècle qui ont voulu intégrer l'idée de laïcité dans le monde musulman, mais elle ne me semble pas tout à fait inadaptée dans la mesure où on a d'un côté l'abolition des sacrifices d'État, donc toutes les formes de rituels publics, la condamnation de tous les très nombreux cultes locaux qui étaient rattachés ou reconnus d'une façon ou d'une autre au culte officiel et qui donc faisaient partie, au niveau le plus simple dans les villages, de la gouvernance impériale. Donc ces cultes locaux se voient refuser toute forme de reconnaissance et sont souvent l'objet de campagnes de destruction. Mais il y a aussi une politique qui n'est pas une politique laïque telle qu'on l'entend suivant le modèle français, la laïcité, même si ce dernier est assez fréquemment et encore parfois aujourd'hui invoqué comme une référence ou un modèle, dans la mesure où ce n'est pas une laïcité neutre, c'est une laïcité qui intervient très fortement pour faire émerger des formes acceptables de religion. Le concept de religion qui arrive dans la langue chinoise à ce moment-là, et Madame la Présidente a écrit de façon tout à fait remarquable sur ce sujet, y compris de façon positive. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Après ce qu'on peut appeler la parenthèse maoïste, au début du XXe siècle et encore aujourd'hui, le concept de religion est généralement reçu comme marquant une force positive pour la société, comme étant une institution qui peut contribuer à moraliser les mœurs et à apporter de l'ordre dans la société. Et elle est toujours couplée avec la superstition qui, elle, rassemble tout ce qui n'est pas reconnu au titre de la religion et qui doit être, à ce titre, combattu et, si possible, supprimé. Donc c'est à ce moment, dès l'avènement de la République en 1912, que le régime décide de mettre en place des critères pour reconnaître les formes de religion qui auront droit à la protection constitutionnelle de la liberté de religion. Et très rapidement, on arrive à une liste de 5 grandes religions reconnues, qui sont encore celles reconnues par le régime de la République populaire de Chine aujourd'hui, à savoir le catholicisme, le protestantisme, l'islam, le bouddhisme et le taoïsme. Donc tout ce qui ne rentre pas dans le cadre défini de façon assez limitative et de façon relativement puriste de ces cinq religions n'a pas le droit à la protection au titre de la liberté religieuse, donc visée par des politiques de destruction qui ont un impact très profond dès le début du XXe siècle. Il ne faut pas penser à l'histoire des campagnes anti-religieuses en Chine moderne comme étant exclusivement ou essentiellement le fait du régime communiste. Elles ont commencé bien avant, en réalité des toutes dernières années de l'Empire, et elles ont continué sur plus d'un siècle, d'où l'effet très profond de ce processus de destruction. Processus de destruction qui a amené à la disparition d'un très grand nombre d'infrastructures, des temples, des bâtiments, des monastères, des églises, des mosquées, à la dispersion de toutes sortes d'associations qui faisaient vivre ces lieux et qui organisaient toutes sortes de fêtes, de rituels, etc. Mais ont aussi laissé la place ouverte pour l'émergence et l'essor de nouvelles formes tout à fait propre à la modernité, d'associations et de pratiques religieuses, qui ont donc rempli l'espace laissé ainsi libre. Et donc plutôt qu'une historiographie traditionnelle qui met l'accent sur la destruction et qui aurait pour horizon l'idée d'une Chine qui deviendrait très rapidement sécularisée, la lecture que je propose serait plutôt celle d'une histoire de production religieuse, d'invention religieuse. Et on voit aujourd'hui qu'un pays comme Taïwan est l'un des plus grands exportateurs au niveau global de nouvelles religions, avec de nouvelles formes de religion qui se créent en permanence et qui très rapidement se répandent dans le monde entier, dans les diasporas chinoises, mais aussi très au-delà d'elles, dans les sociétés locales des pays d'accueil, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique ou dans le reste de l'Asie. Alors, quel est le résultat aujourd'hui de ce processus historique que j'ai évoqué à très très large traits ? Et quelles sont les pratiques ? Alors, il serait évidemment très long et ça ne dépasserait très largement le temps qui m'est imparti de dresser un portrait assez exhaustif de ces pratiques. Je voudrais les évoquer rapidement sous cinq aspects. Le premier, c'est celui des cultes traditionnels, déjà évoqués précédemment au travers des temples consacrés aux dieux locaux, où on peut aussi les appeler des saints locaux, dans la mesure où, bien sûr, il est toujours un peu délicat d'utiliser un vocabulaire d'origine chrétienne et plus spécifiquement catholique pour parler des pratiques religieuses d'une autre culture, en l'occurrence la Chine, mais c'est le vocabulaire que nous avons en français, je crois qu'il ne faut pas hésiter à l'utiliser, d'autant plus qu'il est assez légitime de parler de saints dans la mesure où il s'agit généralement de personnes défuntes qui ont une histoire, qui ont des dates, qui ont des anniversaires, qui ont une hagiographie, qui ont des miracles et qui, après leur mort, du fait de leur caractère exceptionnel ou de leur haut fait, font l'objet d'un souvenir dans l'histoire locale et sont vénérés. On leur construit des temples et ils peuvent être canonisés au travers de l'obtention de titres de la part des autorités religieuses, en particulier taoïstes. Alors, ces cultes traditionnels ont été la cible première des campagnes anti-superstition tout au long du XXe siècle, même si elles ralentissent très fortement aujourd'hui, de la part des fonctionnaires locaux de République populaire de Chine. Critiquer les superstitions, ça se fait encore un peu, plus par habitude que par conviction. C'est un vocabulaire qui est devenu un petit peu daté, mais ça a quand même été essentiellement le langage tenu par les agents de l'État en Chine pendant une bonne centaine d'années. Donc les cultes traditionnels ont été l'objet de campagnes de destruction, les bâtiments ont été rasés ou alors réaffectés à d'autres usages, notamment au travers de la grande campagne « Détruire les temples pour construire les écoles ». Et effectivement, des générations de jeunes Chinois ont été à l'école dans des bâtiments qui, de toute évidence, sont des temples. C'est l'architecture de temples. Simplement, les statues ont été enlevées pour être remplacées par des tableaux noirs. Voilà. Donc, c'est un fait psychologique, même si ça reste assez souvent au niveau de l'inconscient, du non-dit, pour une vaste partie de la population chinoise. Ce remplacement de la religion par l'éducation scientifique moderne. Mais ces temples ont commencé à être reconstruits dès le tout début de la politique dite d'ouverture, en 1978. Ils avaient été beaucoup moins détruits dans le reste du monde chinois, Hong Kong, Taïwan, Singapour, même si là aussi des campagnes avaient été lancées à leur égard pour les reconvertir à d'autres usages, ou pour en tout cas en limiter l'expansion et la place occupée dans l'espace public. Ces temples sont gérés par différents types de communautés, essentiellement les communautés territoriales, tous les habitants d'un village par exemple, ou tous les membres d'un lignage se reconnaissant descendant d'un même ancêtre commun, les guildes, même si c'est le type d'association traditionnelle qui a le moins bien traversé le XXe siècle et c'est le moins reformé, et différentes formes associatives, c'est-à-dire par opposition au territoire, au lignage et aux guildes, où l'appartenance est obligatoire. On habite quelque part, on descend d'un tel ancêtre, on exerce tel métier, donc on fait partie de la communauté qui va entretenir le temple pour son saint ou son dieu patron. Les associations, en revanche, se forment de façon beaucoup plus libre. comme il y a eu de très importants mouvements de population, forcés ou spontanés, dans l'ensemble du monde chinois, les structures territoriales ont évidemment beaucoup décliné, même si on constate que le lien émotionnel reste très fort. On voit par exemple des hommes d'affaires, très actifs dans les grandes villes, revenir pour la fête du temple de leur village d'origine ou pour la fête dans le temple ancestral de leur lignage, même si ça implique un coût important en termes d'aménagement de leur emploi du temps, parce que ce lien émotionnel reste très fort. Cependant, de plus en plus, des temples qui auparavant étaient gérés par des territoires sont maintenant gérés par des associations. On rase un quartier, c'est sans doute le phénomène le plus marquant dans la Chine populaire d'aujourd'hui, la disparition des villages. Les maisons sont rasées pour faire place à des ensembles d'habitations de 3 à 4 étages, des petits immeubles. Les gens sont déplacés. Et donc, la communauté, qui était une communauté très soudée auparavant, se retrouve disséminée en divers endroits, mais tend assez souvent à se recréer sous une forme associative. Donc, les personnes les plus impliquées dans la communauté, même si elles habitent maintenant des endroits différents, essaient de se retrouver régulièrement pour continuer à pratiquer le culte à leur sein local. Il y avait sans doute 1 million de temples, c'est mon estimation, sans doute très basse pour le début du XXe siècle. La plupart ont été progressivement détruits ou affectés à d'autres usages. Même si les murs ne sont pas détruits, la statuaire, les livres, le mobilier, les images, etc. ont été détruits. Donc il y a destruction, même si le bâtiment n'est pas rasé. Sans doute plus de la moitié était déjà hors d'usage quand les communistes arrivent au pouvoir en 1949. La destruction continue par la suite et avant que le phénomène ne s'inverse, donc au début des années 80, avec une vague de reconstruction, mais très inégale. Et quand on regarde un petit peu les détails de ce processus, on réalise qu'il est difficile de parler de ce point de vue-là de la situation en Chine, car ces temples, leurs cultes, sont des phénomènes extrêmement locaux. Les communautés de temples sont très farouchement autonomes et indépendantes. Elles peuvent et très souvent s'engagent volontairement dans des processus de négociation d'alliances à l'échelle locale. On a parfois des réseaux sur des territoires, disons un canton, où tous les temples négocient entre eux pour gérer les biens communs, pour gérer des infrastructures, pour organiser ensemble des festivals sur une très très grande échelle, des processions qui peuvent rassembler 200-300 000 personnes pendant une semaine. Ce n'est pas un phénomène rare dans le monde chinois, mais où chaque temple reste totalement maître de son organisation et de ses biens. Donc pas d'organisation nationale. C'est à ce titre-là que tous ces cultes, qui quantitativement forment le socle et la majorité des pratiques religieuses en Chine, n'ont pas été reconnus au titre de religion, parce qu'il n'y a pas d'organisation nationale. Et il n'y a toujours pas aujourd'hui, et il ne peut pas y en avoir, pour des raisons essentielles, enfin théologiques, dans la mesure où chaque communauté de temple est essentiellement attachée à son histoire locale et à ses dieux locaux, et même s'il y a un langage commun qui permet de négocier, de parler, d'échanger avec d'autres temples, il n'y a pas de raison de créer une structure hiérarchique qui imposerait une autorité par le haut sur ces temples. Donc, une grande autonomie et une très grande différence de ce fait dans le processus de reconstruction, une différence entre les villes et les campagnes, qui est considérablement plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été dans le monde chinois. On est vraiment, d'un point de vue religieux et culturel, dans deux mondes différents. À la campagne, les gens ont encore essentiellement une culture religieuse. Ce que j'entends par culture religieuse, ce n'est pas une culture élitiste, une culture lettrée, hein, au sens où les gens liraient les grands textes classiques, bouddhistes, taoïstes ou confucianistes, mais au sens de simplement savoir ce que c'est qu'un temple, ce qu'on y fait, comment on brûle de l'encens, comment on rend hommage au Dieu, comment on prie, etc. Cette culture reste là très présente dans les campagnes. Elle est beaucoup plus rare en ville. Ou si dans une famille, on en est à la troisième ou quatrième génération de personnes qui n'ont jamais été dans les temples, ou très très rarement, peut-être à l'occasion d'un voyage, mais qui ne fréquentent, qui n'ont pas de temple dans leur quartier, qui ne les fréquentent pas, il y a une perte très forte de cette culture religieuse. Et on voit aujourd'hui des jeunes aller dans les temples prier, par exemple, pour un examen. Les jeunes vont prier au moment de l'examen d'entrée à l'université. Et on voit ces jeunes qui ne savent pas comment on prie dans un temple. Donc, il y a un besoin, il y a un intérêt, mais il y a une perte de la culture élémentaire. Qu'est-ce que c'est qu'un dieu? Comment on s'adresse à lui? Comment on crée cet échange, ce contact avec l'autre monde? Donc différence ville-campagne, très forte, et différence aussi régionale dans certaines régions qui ont servi de laboratoire à une politique religieuse plus ouverte depuis une trentaine d'années. On est arrivé aujourd'hui à avoir reconstruit tous les temples qui avaient été détruits, voire même plus, avec de nouveaux temples construits. En revanche, dans certaines parties du nord de la Chine, mais là aussi de façon très inégale, d'un canton à l'autre, hein, ce n'est pas difficile de faire des généralisations, il y a des cantons où les autorités locales sont restées sur un point de vue très conservateur à cet égard, et où il n'y a pratiquement aucun temple reconstruit. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie religieuse. Dans ces endroits-là, il y a aussi une vie religieuse, mais sous d'autres formes, moins publiques, moins communautaires, et aussi, en fait, beaucoup plus difficiles à contrôler de la part des autorités. Mais dans tous les cas, les temples et leur culte traditionnel représentent l'identité communautaire, représentent aussi un moyen de valider et de légitimer les leaders politiques. On le voit très clairement, par exemple, à Taïwan, où il est impossible de faire une campagne électorale pour un siège de député ou de maire sans aller faire le tour des temples et sans être très présent dans les grandes fêtes de temples. C'est un lieu essentiel où se crée la légitimité pour représenter les populations et où les temples aussi représentent l'autorité morale. On le voit dans de nombreux villages en Chine populaire où les populations sont très réticentes à payer leurs impôts, ont un niveau de confiance très bas envers les autorités. Parfois pour de très bonnes raisons, du fait de la corruption ou autre, mais en revanche, sont tout à fait disposés à donner des sommes d'argent très importantes aux comités de gestion des temples pour que les comités de gestion des temples construisent et gèrent des infrastructures, des routes, des réseaux électriques, un système d'assainissement de l'eau, etc. On voit de nombreux villages en Chine où ce sont les temples qui gèrent cela, qui gèrent l'équipement commun. Et les pouvoirs locaux laissent faire et simplement se contentent de se créditer eux-mêmes pour les réalisations faites quand ils font un rapport à leur hiérarchie pour rendre compte du développement économique local. Deuxième aspect, les cinq religions reconnues, donc la religion au sens institutionnel. Alors on parle beaucoup de l'expansion massive du christianisme. De fait, il y a une expansion en cours dans certains endroits tout à fait spectaculaires. Alors il y a une bataille des chiffres, dans lequel il est assez difficile de prendre position parce que tous ces chiffres ne sont au fond que des estimations et souvent des estimations faites avec un certain parti pris dans un sens ou dans l'autre. Mais on peut dire de façon relativement prudente qu'il y avait sans doute dans les 3 millions de catholiques en 1949 en Chine et qu'on est aujourd'hui dans l'ordre de grandeur de 10 à 12, 13 millions. Une estimation assez prudente. Mais donc qui marque une augmentation sensible, mais pas si spectaculaire que cela. Ceci est largement expliqué par le fait que le catholicisme est en Chine essentiellement une religion communautaire. Les missionnaires ont cherché à construire des groupes catholiques de taille suffisante pour pouvoir prendre soin d'eux-mêmes et perdurer par eux-mêmes. On a des villages catholiques, des villages où pratiquement tout le monde est catholique, avec une forte solidarité, même si certains sont plus croyants ou pratiquants que d'autres. Il y a une identité collective catholique qui permet de faire face à l'adversité, aux répressions, aux brimades, à la discrimination, etc. L'expansion protestante est plus spectaculaire d'un point de vue quantitatif. Est basé sur un modèle tout à fait différent, qui est celui de la conversion individuelle, avec des efforts missionnaires. À l'intérieur même du monde chinois, il y a les missionnaires étrangers, mais l'écrasante majorité des missionnaires en Chine aujourd'hui sont des Chinois venus d'autres provinces et qui auraient fait passer donc la population protestante d'environ 1 million en 1949 à aujourd'hui une fourchette extrêmement vaste allant de, disons, de 15 à 80 millions pour prendre les estimations qui sont encore à peu près raisonnables. On trouve chez certaines organisations missionnaires américaines des estimations encore beaucoup plus hautes, mais là, je crois qu'on est plus dans le wishful thinking que dans la prise en compte sérieuse de la réalité. Malgré tout, expansion extrêmement importante et essentiellement basée sur un modèle de protestantisme évangélique, souvent pentecôtiste, utilisant beaucoup les guérisons comme moyen de conversion, avec une très forte exigence morale, toujours très opposé, même s'il y a des tendances très nombreuses. Bien sûr, le protestantisme est par essence un monde très pluraliste et il est pleinement en Chine. Mais tous les mouvements de base protestants, y compris la grande majorité d'entre eux qui s'opposent à l'Église protestante officielle, sont en opposition avec ce que l'Église officielle dit des trois autonomies, c'est-à-dire autonomie financière, théologique et organisationnelle, ce qui signifie que les liens ont été rompus avec les organisations missionnaires occidentales. Église officielle qui est engagée dans ce qu'on appelle une construction théologique, c'est-à-dire l'élaboration d'une théologie compatible avec le socialisme et qui est très fortement libérale, alors que toutes les églises de base, dont beaucoup ne sont pas reconnues par l'État, donc sont souterraines, même si certaines sont en réalité très visibles, sont dans une perspective beaucoup plus conservatrice. Les bouddhistes, alors on parle moins des bouddhistes que des chrétiens, pourtant le bouddhisme est certainement dans un processus de développement encore plus important et plus spectaculaire que le christianisme dans l'ensemble du monde chinois. Alors bien sûr, le bouddhisme est implanté depuis beaucoup plus longtemps, a toujours été au cœur de la vie culturelle et religieuse des Chinois, mais on assiste maintenant, depuis une à deux générations, à un phénomène où les personnes s'identifient de plus en plus comme bouddhistes, exclusivement bouddhistes, ce qui était très peu le cas auparavant. Que les gens allaient au monastère, faisaient appel aux moines, aux moniales pour des services rituels, sans se déclarer bouddhistes. Et maintenant, de plus en plus de gens s'affirment bouddhistes et cherchent à vivre une vie entièrement bouddhiste, en coupant, dans une certaine mesure, les ponts avec les autres formes de culte traditionnels. Ils ne vont plus dans les temples, ils ne sacrifient plus aux saints locaux, etc. Et dans des endroits comme Taïwan, Hong Kong, Singapour, dont les communautés chinoises en Europe et en Amérique du Nord, on dépasse très souvent les 30 à 40% des populations se déclarant comme bouddhistes. Donc on est là dans des chiffres beaucoup plus importants que les chrétiens, sauf exception, on est toujours en dessous de 10%. Le cas très particulier où l'identité religieuse se combine avec l'identité ethnique doit être considéré séparément, comme dans le cas des Tibétains. Donc le problème tibétain est assez bien connu. Ce que je voudrais simplement souligner ici, c'est que les réglementations qui s'appliquent à la gestion du bouddhisme dans les zones tibétaines en Chine est théoriquement la même que dans le reste de la Chine. La réalité est totalement différente et un très grand nombre de choses qui sont tolérées, voire encouragées en zone majoritairement chinoise, Han, c'est-à-dire des chinoises de langue chinoise, est strictement interdite dans les zones tibétaines. Et donc on assiste là réellement à une double politique où les pratiques qui sont tolérées quand elles sont uniquement religieuses deviennent interdites quand le facteur religieux et le facteur ethnique se combinent. On peut observer quelque chose de tout à fait semblable dans le cas de l'islam, où les populations musulmanes en Chine populaire se divisent de façon à peu près égale d'un point de vue du nombre des personnes entre les musulmans de langue chinoise, qu'on appelle les Hui, et qui sont eux très favorisés par l'État. De nombreux indices, par exemple des exemptions qui sont faites à leur égard des lois sur la crémation obligatoire, qui leur permet d'avoir l'enterrement musulman, par exemple. C'est à peu près la seule exception qui est faite à la crémation obligatoire en République populaire de Chine. Et d'autres exceptions encore montrent que ces musulmans chinois jouissent de très bons rapports avec l'État et reçoivent toutes sortes de privilèges ou d'attentions. Alors que la situation des musulmans de langue turque, enfin la famille de langue turque, donc notamment Ouïghours, et les autres langues de l'ouest de la Chine sont dans une situation extrêmement différente et eux font l'objet de politiques beaucoup plus répressives avec toutes sortes de contrôles sur les écoles musulmanes, les mosquées, etc., qui offrent un fort contraste avec la situation en Chine où les mosquées et les écoles musulmanes sont beaucoup plus libres. Mon troisième aspect, et là je vais peut-être passer un petit peu plus vite, c'est celui des nouveaux mouvements religieux qui apparaissent au cours du XXe siècle, qui ont recyclé toute une tradition des thèmes eschatologiques, donc avec un discours sur la fin du monde, et sur l'exigence d'une grande rigueur morale et d'une pratique éthique individuelle beaucoup plus stricte, afin de faire partie du nombre des élus, donc des sauvés, qui échapperont à la fin du monde imminente. Du fait de ce discours eschatologique, un grand nombre de ces mouvements religieux ont été interdits par l'État, et le sont encore en République populaire de Chine, même si certains d'entre eux, à certains moments de l'histoire, ont eu des rapports assez étroits avec l'État, que ce soit en Chine populaire ou à Taïwan, parce qu'elles ont aussi développé, enfin ces nouveaux mouvements religieux ont développé, un discours assez proche par certains égards de celui de l'État chinois républicain puis communiste, qui était de créer une nouvelle civilisation basée sur des valeurs chinoises par opposition aux valeurs occidentales, mais en plein accord avec la modernité, et avec l'idée de transformer les gens, de créer des citoyens d'une meilleure qualité morale afin de permettre le salut de la nation. Donc certaines de ces sociétés ont été réprimées de façon féroce. On pense notamment à l'une des plus grandes d'entre elles, qui s'appelle le Yiguandao, qui a été l'objet de la première campagne de répression après l'avènement du régime communiste en 1949, et qui a été également réprimée à Taïwan avant d'être légalisée en 1987, qui est aujourd'hui la troisième plus grande religion à Taïwan et qui s'étend dans le monde entier. Il y a un nombre important de temples Yiguandao en région parisienne et qui aujourd'hui essaie de revenir en Chine populaire sous la bannière de la promotion de la culture traditionnelle, en particulier le confucianisme et la lecture, l'étude des textes classiques. Alors qu'en France, ils auraient plutôt tendance à se présenter comme bouddhistes parce que le bouddhisme est la religion qui bénéficie de la meilleure image dans le discours public en France. la vague du Qigong, donc ces exercices de perfectionnement de soi et de culture du corps, qui a déferlé sur l'ensemble de la Chine dans les années 80 et 90, faisait aussi partie d'une de ces vagues de nouveaux mouvements religieux qui recyclaient donc les techniques à la fois de perfectionnement de soi individuel et les thèmes eschatologiques ou utopiques de salut national, et donc qui faisaient suite à des vagues précédentes, des années 20, des années 40, et on attend aujourd'hui la nouvelle vague. Après, la seule chose qui est certaine, c'est qu'il y aura certainement de nouvelles vagues de ces mouvements religieux en concurrence directe avec l'État. Quatrième aspect, celui de la question du confucianisme, qu'il faut évoquer parce qu'on en parle de plus en plus dans les médias et dans le discours sur le devenir de la Chine. Question épineuse parce que la question même de le confucianisme est-il une religion est au centre des débats en Chine, elle n'est toujours pas résolue, on en débat depuis un siècle et on continue. Ce que l'on peut dire sans prendre position, sans intervenir en tant qu'acteur dans ces débats-là qui occupent les intellectuels et les leaders chinois, c'est que d'un point de vue anthropologique, si on observe les choses un peu à distance, dans la société traditionnelle, le confucianisme était religieux. Il y avait des prêtres, il y avait des rituels, il y avait l'idée des divinités, il y avait des textes révélés, il y avait des pratiques de perfectionnement de soi, il y avait un discours moral, la rétribution des actes, les bons actes sont récompensés, les mauvais actes sont punis. Mais que, pour diverses raisons, au tout début de la République, le confucianisme n'a pas été reconnu comme religion. Donc il n'a pas fait partie de ces religions pour lesquelles on a délimité un cadre très précis, un secteur religieux, avec des lois sur la religion, des organisations religieuses, par lesquelles l'État gère de façon corporatiste les faits religieux. Donc le confucianisme, qui n'a pas disparu pour autant, a dû se réinventer sous d'autres formes, et quatre formes essentiellement. Il y a eu une réinvention philosophique très intéressante, essayant de combiner les textes classiques du confucianisme avec les philosophies occidentales, kantiennes notamment, qui ont donné des choses intellectuellement passionnantes, mais qui sont restées vraiment largement cantonnées au monde des universités. Il y a eu, deuxième forme, une récupération politique, c'est plus récent, mais c'est très en vue aujourd'hui. Toutes sortes d'acteurs. Alors, ce sont des acteurs un peu périphériques. Le discours officiel des leaders du parti continue à être extrêmement prudent sur la question du confucianisme. On a un vocabulaire un peu confucéen, le retour à l'ordre moral traditionnel, si vous voulez, mais ça reste très prudent. En revanche, il y a tout un ensemble de penseurs très bien introduits qui parlent à leur titre propre et non pas pour le régime, mais qui parlent manifestement de façon autorisée et qui proposent de créer une religion civile pour unir les Chinois autour de valeurs communes, pour combler d'une certaine façon un vide spirituel résultant de l'abandon de l'utopie maoïste, et donc essayant de fabriquer une religion civile à partir du confucianisme, et marquant, il faut le souligner, une vaste gamme d'options, allant d'options d'un point de vue de philosophie politique très autoritaire, une sorte de paternalisme d'État éclairé et autoritaire, jusqu'à des options beaucoup plus libérales. Voilà, donc je pense qu'il est difficile de faire rentrer le confucianisme dans une case autorité, démocratie. Il est utilisé, manipulé par des penseurs ayant des options très différentes. Troisième forme, c'est l'activisme de base. Toutes sortes de mouvements de base dans la société, dans les entreprises, dans les quartiers, qui essaient de réadapter le confucianisme pour un usage contemporain et qui souvent sont à la fois très méfiants envers la récupération politique. Ils ne souhaitent pas que l'État s'occupe de confucianisme. Et aussi très critique envers les universitaires comme étant excessivement intellectuels et pas assez pratiques. Pour eux, le confucianisme, c'est une pratique, c'est une morale en action, c'est une façon d'organiser la société pour que les cadets respectent les aînés, pour que les relations de genre soient harmonieuses, etc. Et ça prend souvent la forme de mouvements éducatifs. On réintroduit la lecture et l'apprentissage par cœur des classiques dans les écoles. Et enfin, quatrième et dernière forme, c'est les nouveaux groupes religieux que j'évoquais à l'instant, qui eux sont très largement interdits, en tout cas en République populaire de Chine, ils sont maintenant légalisés à Taïwan, et qui reviennent en brandissant la bannière du confucianisme, en réinterprétant dans tous les textes classiques et en les diffusant, mais en les accompagnant d'une vision globale du monde et une vision souvent assez eschatologique et en tout cas très militante. Donc pour conclure, je dirais que si on essaie de comprendre dans ce cadre très pluraliste, vous voyez, il y a pratiquement toutes les formes de pratiques religieuses du monde qu'on peut retrouver en Chine, avec cet héritage particulier donc d'un siècle de politique anti-superstitieuse, qui fait que quand on demande aux gens ce qu'ils croient, et on commence maintenant, c'est très récent, à avoir des enquêtes solides et fiables. On a assez longtemps eu des chiffres, mais qui étaient, disons, manifestement fabriqués dans le cadre d'enquêtes qui avaient une portée politique ou idéologique marquée, dont les questionnaires étaient, disons, trop marqués par une certaine vision des choses et qui n'étaient pas, en fait, adaptés à ce que les gens pouvaient répondre spontanément sur leurs croyances, sur leurs pratiques. Mais on commence donc depuis quelques années à avoir des données intéressantes. Et on voit bien que les gens continuent à se déclarer athées. Et c'est effectivement l'expérience qu'on a quand on parle aux gens dans la rue en Chine. Ils se déclarent athées parce que c'est ce qu'il a fallu dire pendant depuis 4 ou 5 générations pour ne pas avoir d'ennuis. Donc très spontanément, les gens se disent athées. On a un noyau dur, peut-être 20-30% de gens qui manifestement croient à l'athéisme, si j'ose dire, qui sont des athées convaincus et militants. On a un nombre encore assez faible en Chine populaire, j'entends, les nombres sont beaucoup plus élevés à Taïwan, Singapour, Hong Kong, etc. Peut-être 10-15% des gens qui se disent religieux, qui s'identifient à christianisme, bouddhisme, etc. En revanche, on a une majorité de gens qui pratiquent la divination, qui prient les divinités, et à mon sens, point vraiment essentiel, qui croient en la rétribution des actes. Le fait que le destin, la question de destin est fondamentale, que le destin n'est pas un hasard, qu'on n'est pas riche ou pauvre par chance, ou par concours de circonstances, mais que les bonnes actions sont récompensées. Alors, est-ce qu'elles sont récompensées par les dieux? Est-ce qu'elles sont récompensées par un mécanisme plus ou moins automatique? La question reste ouverte, mais la majorité des gens croient en la rétribution des actes. Et donc, même si seulement un petit nombre d'entre eux se déclarent membres d'une religion, l'intérêt pour les religions est très important, et on le voit dans les grandes villes chinoises, les grandes librairies sont pleines de livres sur la religion, la culture catholique, extraits de la Bible, qu'est-ce que l'islam, le New Age, les grands textes taoïstes et bouddhistes, confucianistes, expliqués en langue moderne, etc. Ces livres-là sont produits et achetés et lus en quantité absolument massive et représentent, en fait, une part beaucoup plus importante, je pense, que dans les librairies françaises ou européennes, une part, disons, religieuse, au sens large. Et si bien qu'avec ce taux d'appartenance, d'identification faible, cette culture religieuse relativement faible, des choses ont été transmises, essentiellement des mères aux enfants. Mais malgré tout, assez peu. Mais cet intérêt très fort, très éclectique, on a une situation où les gens pratiquent le bricolage religieux sur une grande échelle, fréquentent toutes sortes de groupes, vont aller écouter des gospels ou fréquenter un groupe de lecture de la Bible, mais vont aussi pratiquer le végétarisme en se déclarant plus ou moins bouddhiste, etc. Donc un niveau de bricolage qui est très difficile à mesurer, mais qui marque une effervescence religieuse très forte dans le monde chinois. Et peut-être encore, si vous me l'accordez, deux phrases de conclusion. Je n'ai pas parlé de la gestion politique de cette situation. Elle est plus connue, donc très laissée-faire maintenant du côté Taïwan-Hong Kong, beaucoup plus corporatiste en Chine populaire, où le domaine du religieux est très étroit. Ce qui est défini comme religieux correspond en fait qu'à une minorité de ce que les gens font en termes de pratiques religieuses, très étroit et contrôlé. Il y a un soutien croissant, mais encore timide, de l'État socialiste pour le bouddhisme et le taoïsme, les religions indigènes, contre le christianisme, pour essayer de trouver des moyens de contenir l'expansion protestante, mais pour les associations religieuses, encore très peu de marge de manœuvre pour gérer leurs propres institutions. Les bouddhistes et les taoïstes ont l'argent, voudraient construire des hôpitaux, des écoles, etc. Ils ne le peuvent pas. Ils peuvent donner de l'argent aux hôpitaux, aux écoles publiques, mais ils ne peuvent pas gérer eux-mêmes des institutions. Donc ce discours officiel sur la contribution de la religion à la société harmonieuse rencontre en fait une certaine frustration de la part des acteurs religieux. Et ce qui se passe, c'est que ce trop-plein de la religion qui ne rentre pas dans le cadre officiel de la religion, eh bien, il se déploie dans d'autres champs, la médecine et le sport, comme ça a été le cas avec le Qigong, et maintenant beaucoup la culture et le patrimoine culturel immatériel, tel que défini par l'UNESCO, joue maintenant un rôle massif dans la légitimation et la reconnaissance des cultes locaux, des fêtes, des rituels, etc. Mais dans une zone grise, c'est de la religion qui ne s'appelle pas religion, et on ne sait pas quel est l'avenir religieux du monde chinois, mais à peu près la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que cette zone grise de religion non reconnue en tant que religion et qui se déploie sous des déguisements ou des formes diverses est en pleine expansion et continuera encore à croître dans les années et les décennies qui viennent. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre attention. Je serai très heureux de répondre à vos questions.
Parmi les ouvrages publiés par Vincent Gossard, on peut recommander son ouvrage « Dans les temples de la Chine, rites populaires et religions savantes » chez Albin Michel, ainsi que son « Découverte Gallimard sur le taoïsme ». Toutes les communications de l'année 2012, série intitulée par la présidente Marianne Bastide-Bruguière, « Asymétries et forces neuves du monde actuel » sont enregistrées par Canal Académie, disponibles à l'écoute et au téléchargement et en libre accès permanent.